Je vais commencer par prier. Seigneur Jésus, merci parce qu'on peut se tenir là, ce matin, devant toi. Je te prie vraiment que tu puisses ouvrir nos cœurs, que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire et que tu nous donnes de pouvoir nous concentrer malgré les masques, malgré la chaleur, malgré les circonstances. Seigneur, merci de prendre soin de chacun de nos cœurs et de nous aider à grandir. Amen. Hébreux 13, c'est là qu'on s'est arrêté. On arrive doucement, mais sûrement, à la fin de la série de partages sur Hébreux qui aura duré presque un an. Après avoir fait de longs développements doctrinaux, l'auteur il nous invite maintenant à mettre en pratique tout ce que nous avons pu lire dans son épître. Dans la dernière partie de l'épître, les croyants hébreux sont exhortés à poursuivre la paix, l'amour pratique et la sainteté. Ces trois mots, la paix, l'amour pratique et la sainteté, décrivent en grande partie la vie chrétienne. Ces trois mots définissent ce que nous avons en notre Sauveur Jésus. Et ces trois mots sont en grande partie l'objectif de la vie chrétienne. Nous allons maintenant lire les six premiers versets du chapitre 13 de la lettre aux Hébreux. Et j'ai choisi d'étudier et de lire ce passage dans la version Parole de vie. Donc le texte va s'afficher. Continuez à vous aimer comme des frères et sœurs chrétiens. N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir. Pensez aux prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux. Pensez à ceux qu'on torture, comme si c'était vous qu'on torturait. Tous doivent respecter le mariage. Mari et femme doivent rester fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera ceux qui ont une vie immorale et ceux qui sont adultères. Ne soyez pas attachés à l'argent, soyez contents de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Non, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Alors nous pouvons dire avec confiance, « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas peur. Aucun être humain ne peut me faire du mal. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Après une mise en garde contre le danger de revenir à la condition religieuse ancienne, l'auteur de cette épître insiste une fois encore sur les privilèges que la grâce a introduits dans le Nouveau Testament, autrement dit au travers de la Nouvelle Alliance. Il rappelle le thème central de l'épître, qui est de servir Dieu d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Ça se trouve dans Hébreux 12, verset 28. Nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Je vais donc découper ce passage en trois parties qui ne sont pas équitables. Nous allons commencer par développer l'amour fraternel, ensuite aborder la fidélité dans le mariage, et enfin, la confiance en Dieu. Et de manière plus générale, tous les versets seront pris les uns après les autres. J'espère que cette réflexion saura nous donner des pistes de réflexion sur notre vie. Comme lors de mes partages au groupe de jeunes, je remarque que le simple fait de me pencher sur un texte me fait réfléchir, moi en premier, et me remet en question. Et à chaque fois, je me pose la question, est-ce que je suis légitime? Parce que des fois, je me sens bien éloigné de cette réalité. Et j'espère qu'ensemble, on va pouvoir progresser. Et en tout cas, je pense que c'est justement pour cela que Dieu a permis que je réfléchisse à ces thèmes. Donc pour ceux qui hésitent encore, vous pouvez venir voir Bernard qui vous aidera. Donc je vais aborder l'amour fraternel. Trois verbes introduisent les trois courtes premières phrases, les trois premiers versets. Il présente la nécessité de poursuivre la paix avec tous et la sanctification personnelle. Ça nous était déjà présenté au verset 14 du chapitre 12 qui dit « Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. » Ces verbes sont « continuer »,« ne pas oublier » et « penser ». Ces trois versets présentent donc un grand aspect de la façon dont notre foi doit se vivre. En nous aimant fraternellement et en le concrétisant par l'hospitalité et par le souci de ce que nos frères et sœurs peuvent vivre. Continuez, ne pas oublier et pensez. Je vais découper cette partie en trois également, et ce sera tout simplement les trois premiers versets. Continuez à vous aimer comme des frères et sœurs chrétiens. Ça, c'est le premier verset. La première des choses que nous devons mettre en pratique, c'est l'amour fraternel. C'est super de tout savoir sur le salut, c'est super de tout savoir sur la vie éternelle et de se l'approprier. Mais si nous ne nous aimons pas les uns les autres, alors nous sommes parfaitement inutiles pour Dieu. Et ça nous est rappelé dans bien des passages bibliques, à commencer par le plus connu, et je nomme l'hymne à l'amour que l'on retrouve dans le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. L'amour fraternel n'est pas une chose acquise pour toujours. On se doit de persévérer dans cet amour. On pourrait aussi traduire ce verset en disant que l'amour fraternel demeure. Le verbe choisi dans ma traduction est continuer. Il induit la notion de répétition, de permanence. La version second, elle, utilise le verbe persévérer. Nous devons entretenir et développer cet amour fraternel. Dans ce premier verset, l'auteur nous exhorte à persévérer dans l'amour fraternel et il nous donne des exemples très concrets pour mettre en pratique cet amour. Ces exemples sont tous les versets qui suivent. C'est un peu comme si c'était le titre de ce passage, et si ce n'est pas le titre, c'est en tout cas ce que l'on désire que l'on retienne. Persévérons dans l'amour entre frères et sœurs spirituels. Comment persévérer dans cet amour? Comment est-ce que moi je persévère? Est-ce qu'on désire l'appliquer avec tous nos frères et sœurs? Ou seulement avec quelques-uns avec qui nous sommes plus proches? Avec nos frères et sœurs qui sont dans notre famille charnelle? Pourquoi il nous est rappelé de persévérer? Pourquoi on est encouragé à persévérer? Pourquoi cela nous est rappelé? Sûrement parce que nous n'avons pas toujours cet amour spontané qui nous pousse à nous faire preuve d'amour les uns les autres et qu'il nous faut parfois nous bousculer pour vivre l'amour fraternel. Il nous faut sûrement provoquer cet amour fraternel. N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir. Dans ce verset 2, l'amour fraternel accueille également celui qui est dans le besoin. Et cet accueil doit dépasser l'accueil de celui qui est dans le besoin, parce que oui, on est aussi appelé à nous accueillir les uns les autres en ouvrant les portes de nos foyers, de nos maisons, de notre intimité, à nos frères et sœurs, dans le but de vivre simplement un temps de communion fraternelle, que nous soyons dans le besoin ou non. Cet acte d'hospitalité, habituel à l'époque, peut prendre une dimension spirituelle qui échappe à celui qui reçoit sans le savoir. À celui qui reçoit, qui sans le savoir, peut être amené à loger des anges, comme ce fut le cas pour Abraham et Lot, qui reçurent la visite d'anges de Dieu dans le chapitre 18 et 19 de la Genèse. Les commentateurs s'accordent à dire que l'auteur fait allusion à Abraham, qui a reçu sous sa tente les anges qui étaient en route pour détruire Sodome. Dans le livre des Actes, nous voyons la bénédiction qu'ont les croyants de se retrouver ensemble et de partager ensemble. Dans le livre de Daniel, nous voyons également que la communion entre Daniel et ses amis porte des fruits au-delà de leurs propres espérances. De nos jours, nos contemporains, et nous dans une certaine mesure, nous avons une notion de redevabilité dans l'invitation. Il plane cette pensée de donnant-donnant. Qui d'entre nous ne s'est jamais surpris à penser « C'est toujours moi qui fais le premier pas. Il ne m'a jamais invité, pourtant je l'ai déjà invité 3 fois. » Ou bien encore, « Je suis l'un des seuls de l'Église à inviter des frères et sœurs. J'en ai marre. » Notre hospitalité ne devrait être motivée que par le désir d'honorer Dieu et de partager ce qu'il nous a donné avec notre prochain, avec nos frères et sœurs, et non pas motivée par nos défauts humains qui mettent en valeur la jalousie et l'égoïsme. Prenons garde à la pudeur, à la jalousie, à l'égoïsme. On a souvent du mal à nous laisser déranger dans nos habitudes. On a du mal à admettre que quelqu'un puisse pénétrer dans notre intimité, dans notre vie bien remplie, parce que nous avons un programme, des horaires, des loisirs. Mais l'amour fraternel nous invite à exercer l'hospitalité en balayant ses excuses. Nous nous réunissons en groupe de maison à Monteux, chez moi. Le soir, pas chez moi, chez nous, avec mon épouse, après une journée de travail, vers 19h30. On se retrouve, c'est à peu près ça, 19h30, 20h, selon la flexibilité des membres. Mélanie s'occupe de notre fille, de la chercher, de lui préparer à manger, de lui donner le bain, de la coucher. Moi, je rentre souvent tard et j'arrive à la fin de la bataille. On est fatigué, mais on a décidé de continuer de se retrouver parce que nous trouvons important de pouvoir nous réunir régulièrement. Et je ne veux pas vous laisser penser que nous sommes meilleurs que d'autres. Loin de moi cette idée. Mais nous avons tous des circonstances qui nous permettraient de repousser et de nous trouver des excuses. Mais rappelons-nous que ce que nous faisons pour Dieu a souvent des répercussions plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Lorsque nous manifestons notre amour
nous voyons un tout petit acte que n'importe qui aurait pu faire. Mais Dieu voit l'amour qui existe entre ses enfants. Et son cœur se réjouit de voir que nous manifestons le désir de nous aimer les uns les autres. La communion fraternelle se manifeste dans cet accueil. Et cela est symbolisé pour moi par trois versets, par trois passages plutôt, par trois références. Celle que nous avons ici, sur le fait d'accueillir des anges, mon groupe de maison pourrait vous le dire, non pas parce que ce sont des anges, mais parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a aussi le passage où il est dit que ce que nous faisons pour notre prochain, c'est envers Jésus que nous le faisons. Ce que nous faisons pour le plus petit des hommes, c'est envers Dieu qu'on le fait. Et enfin, dans le livre des Actes, où tout le monde est chez tout le monde, à se demander si la vie privée et la propriété existaient encore. Mais ça, c'est un vaste débat qu'on ne va pas mener ce matin. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que sans l'hospitalité dont ont fait preuve les premiers chrétiens, l'évangile ne se serait pas répandu aussi rapidement à l'époque. Beaucoup de chrétiens ont dû fuir leur domicile suite à des persécutions. Et il devait donc être important que la communauté prenne soin de ceux qui étaient expulsés, rejetés à cause de leur foi en Jésus. Et c'était là une manifestation de l'amour pratique. Pensez aux prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. D'une manière très générale, Jésus se préoccupe des besoins humains. Et l'auteur de l'Épître rappelle que nous sommes appelés à aimer Dieu et à aimer notre prochain. L'un ne pouvant aller sans l'autre. Cela nous est d'ailleurs enseigné par deux des plus grands commandements qui résument la loi de Dieu et qui ont été repris par Jésus. Un peu comme la foi et les œuvres, l'un sans l'autre ne valent absolument rien. Nous avons une responsabilité particulière envers toute personne en situation de fragilité. Parce que oui, ma femme m'a appris qu'on dit une personne en situation de handicap et pas une personne handicapée, donc je pense que ça peut s'appliquer aussi pour la fragilité. Nous avons donc un devoir d'être sensibles et vigilants envers les veuves, les orphelins, les prisonniers, les étrangers, les exclus. Comme cela nous est enseigné dans la loi, et encore une fois, rappelé dans l'enseignement du Nouveau Testament. L'amour fraternel se manifeste donc en faisant preuve de sympathie, voire même d'empathie envers les prisonniers. Ils sont isolés, peu nourris, souvent maltraités physiquement. Ils ne pouvaient survivre sans secours matériel, affectif ou encore spirituel. Les Hébreux sont encouragés à persévérer dans ce ministère, parce qu'il avait déjà manifesté de la compassion envers les prisonniers, et ça c'était indiqué dans le chapitre 10 au verset 34. On pourrait s'interroger à propos d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Est-ce qu'on doit visiter les prisons du Pontet ou des Baumettes à Marseille? Est-ce qu'on doit donner des cours en prison ou évangéliser dans les prisons? Si Dieu vous met cela à cœur, je dis oui, allez-y. Mais dans le contexte de l'époque, je pense que les prisonniers en question étaient les chrétiens emprisonnés pour leur foi qui se retrouvaient livrés à eux-mêmes. Ces chrétiens seuls, fraîchement convertis, étaient vulnérables dans leur foi. Et ils avaient besoin du soutien de leurs frères et sœurs. Les prisons étaient là pour les briser, pour briser leur foi aussi. Ne nous détournons pas de ceux qui sont en prison ou qui sont maltraités à cause du Christ. Parce que nous faisons partie du même corps. Et nous est impossible, à nous qui déclarons aimer Dieu et aimer nos frères et sœurs, de se détourner de celui qui souffre à cause de sa foi. Dans notre pays, ça vous paraît peut-être peu envisageable, mais nous pouvons prier pour nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays et qui sont emprisonnés pour leur foi. Et malheureusement, il y a encore de nombreux pays où c'est impossible pour eux de pratiquer librement leur foi, de confesser ouvertement leur attachement à Jésus, sans souffrir de la persécution, sans souffrir de la prison. Il y a certaines associations comme Porte Ouverte qui donnent des nouvelles pour que nous puissions soutenir dans la prière ceux qui souffrent pour leur foi en Jésus. Et ça peut nous permettre de soutenir nos frères et sœurs par la prière, avec des informations qui nous sont données, des nouvelles, ou par des dons pécuniaires. Lors de mon séjour en Afrique en 2015, j'ai pu côtoyer de bien plus proches qu'en France des personnes qui étaient persécutées pour leur foi. Des personnes qui n'étaient pas emprisonnées, mais ils étaient reniés par leurs proches et parfois par leur village entier, obligés de quitter le village et de fuir là où personne ne les connaissait. Et en même temps, quitter l'église et malheureusement des fois se détourner de leur foi. Nous abordons maintenant le deuxième point, qui est la fidélité dans le mariage. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les infidèles et les adultères. La fidélité dans le mariage n'est pas une option. Point. On passe au suivant. Non. Je vais continuer. Actuellement, elle est couramment admise. Elle est comprise, mais malheureusement, elle est bien trop souvent bafouée, Mais dans l'époque de Jésus, et principalement chez les Romains, la fidélité était carrément considérée comme déraisonnable et injustifiée. Chez les Juifs, le statut de la femme était souvent lié à sa capacité à assurer la descendance. Avec Mélanie, nous avons regardé une série Unorthodox, de l'anglais qui veut dire pas orthodoxe, qui se déroule dans la famille juive, dans une famille juive orthodoxe dans un quartier de New York. Et je pense qu'elle illustrait le mieux la vie des Juifs du temps de Jésus. Et dans l'univers de cette série, le statut de la femme et la vision du couple elle-même étaient mises à mal. L'auteur invite donc les conjoints à un attachement exclusif qui construit une barrière autour des époux, mais qui détruit toutes les barrières qui se dressaient entre eux. Dans notre monde où pornographie, libertinage, liaison extra-conjugale et autres dérives sexuelles font rage, attachons-nous à rester purs et à persévérer dans notre mariage. Ne soyons pas influencés par nos contemporains. Pour les célibataires ou les veuves de notre assemblée qui sont parmi nous ce matin, vous vous demandez peut-être, suis-je concerné ? Oui, vous êtes concerné. Portez les valeurs du mariage dans vos discussions. Portez les couples que vous connaissez dans la prière. Et dans votre désir éventuel de vous marier, demandez à Dieu du discernement. Notre société, en remettant en cause le mariage, est gravement dans l'erreur. Car le mariage est une institution voulue par Dieu et elle est importante à ses yeux. Nous allons voir le dernier point, la confiance en Dieu. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Une autre attitude qui fait que l'amour fraternel et l'amour pour Dieu sont souvent bafoués, c'est l'amour de l'argent. Sachons nous satisfaire de ce que nous avons. Je ne vous cache pas que cela peut être difficile, mais j'aspire à ce que chacun de nous puissions dire un jour comme Paul dans la lettre aux Philippiens, « J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. » C'est quelque chose qui s'apprend, qui est difficile et qui n'est possible que grâce à Dieu. Et je n'ai pas la prétention de vous faire la leçon, parce que je dois sûrement travailler sur ce point encore. Mais comment déterminer à quel moment l'argent prend trop d'importance dans notre vie, quand nous vivons dans un monde où nous ne pouvons pas vivre décemment sans argent? C'est une question à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse à vous apporter, et j'espère que vos cœurs se laisseront travailler par cette question. Un passage sur l'argent que j'ai toujours apprécié se trouve dans le livre de Proverbes au chapitre 30, les versets 8 à 9. Ne m'envoie ni pauvreté, ni richesse. Donne-moi seulement ce qu'il me faut pour vivre. En effet, si je suis trop riche, je peux te trahir en disant « Qui est le Seigneur ?» Et si je suis trop pauvre, je peux devenir un voleur. Alors, je ne respecterai plus le nom de Dieu. Vouloir plus que ce que l'on a est mauvais quand cela prend la place de Jésus, quand il devient plus important que Dieu et quand il nous empêche de compter sur lui, voire de passer des moments avec lui. Que l'argent ne guide pas notre vie, mais au contraire, sachons nous satisfaire de ce que nous avons, car nous avons la promesse que Dieu satisfera à tous nos besoins. Il ne nous dit pas de ne pas travailler, d'attendre que l'argent tombe du ciel. Par contre, l'auteur de la lettre aux Hébreux cite un verset de l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, qui doit nous rassurer. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » De la confiance en Dieu découle la satisfaction. Les richesses sont passagères et Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Ce verset, c'est une citation du psaume 118. Il nous appelle à placer notre confiance en Dieu. Mais la confiance a toujours une base, un fondement. On ne fait pas confiance aveuglément. Et dans ce cas précis, la confiance en Dieu, elle repose sur le fait que Dieu ne peut pas mentir et que l'on peut compter sur lui. Et quand il dit qu'il est notre secours, c'est qu'il le sera. L'ensemble de notre foi chrétienne est basé sur des promesses de la Bible. Nous ne pouvons pas choisir les promesses qui nous intéressent et renier celles qui ne nous intéressent pas. Nous pouvons et nous devons nous approprier, nous rattacher à toute la parole et à toutes les promesses de Dieu que nous découvrons au fur et à mesure dans sa parole. Traverser les difficultés et les épreuves avec un cœur calme, c'est le résultat de cette confiance. Alors, approprions-nous cette promesse de notre Dieu et avançons sereinement vers l'avenir. Et pour conclure cette réflexion, s'il y a une chose que je souhaiterais que l'on retienne ce matin, ou plutôt quelques idées à retenir, j'essaie d'en faire une phrase, ça vous pourrez peut-être la retenir plus facilement, ça serait que nous sommes appelés à aimer nos frères et sœurs, et de manière plus large, notre prochain, en faisant preuve d'hospitalité, d'empathie, de bienveillance, en pratiquant l'hospitalité, tout en ayant confiance en Dieu pour superviser tout cela, ainsi que l'ensemble de notre vie. Amen. Je vais prier pour terminer ce moment. Seigneur Jésus, que ce que nous venons d'écouter puisse germer dans nos cœurs, que tu puisses nous faire progresser dans ta foi, Seigneur, dans la sanctification. Merci de prendre soin de chacun, de là où nous pouvons avoir des questions, que tu puisses apporter des réponses, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui peux travailler sincèrement un cœur. Et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici ce matin. En ton nom, Jésus. Amen.